Aujourd'hui, nous voici à Nieul-sur-Mer, en face d'un magnifique panorama, terre et ciel qui se conjuguent. Et ce n'est pas pour rien qu'on se trouve au milieu de ce paysage, puisque nous allons à la rencontre d'une artiste peintre, Béatrice Vial-Collet. Bonjour Béatrice.
Bonjour, bienvenue à vous.
Nous avons la chance d'être dans votre atelier. C'est donc dans une atmosphère vraiment particulière que nous allons pouvoir parler de votre œuvre. Et tout d'abord, de la genèse qui vous a amené au métier d'artiste peintre, parce que vous n'avez pas toujours fait cela. Et donc, vous arrivez sur ce métier avec une certaine expérience. Vous avez roulé votre bosse, vous avez fait des études juridiques, vous avez travaillé dans une banque, vous avez dansé, vous avez pratiqué la musique. Et comment, justement, est née cette envie de peindre?
C'est vrai, je vais tuer un cliché tout de suite, suivant lequel le talent tombe sur l'artiste au verso. Non, je ne suis pas née avec un couteau ou un pinceau entre les dents. Non, non, j'ai effectivement commencé par des études juridiques, mais par contre, c'est vrai que je crois pouvoir dire que j'ai toujours eu un espèce de tempérament artistique, si vous voulez. C'est-à-dire que j'ai toujours eu envie de créer de la vie, en quelque sorte. Voilà. Pour moi, l'art, c'est de la vie. Je pense souvent à Rainer Maria Rilke, qui va plus loin, même puisqu'il dit, il fait des similitudes entre la vie créatrice et la vie sexuelle, qui pour lui sont deux formes d'un seul et même besoin, puisqu'elles connaissent toutes les deux des souffrances et puis des voluptés intenses. Voilà. Donc c'est vrai, j'ai pratiqué beaucoup de disciplines différentes, pas toujours avec bonheur, du reste. Mais ce qui m'intéressait, c'était, enfin ce qui me fait vibrer, oui, c'est de rechercher toujours, d'explorer des vocabulaires nouveaux, puisque je trouve que peu importe ce vocabulaire, que ce soit une note, une expression, un geste, un regard, ce qui compte pour moi, c'est d'aller vers l'autre, c'est tout ce qui peut me permettre de partager, de dire pour autrui. Voilà, en quelque sorte, je crois que j'aurais jamais pu être un Gauguin, de toute façon je crois que la question se pose pas, mais un artiste maudit, quoi, c'est-à-dire j'aurais jamais pu peindre pour mettre mes tableaux au grenier. Je pense que l'œuvre devient artistique sous le regard de l'autre. Voilà, c'est le fait de le partager qui le fait être vraiment une œuvre créatrice artistique.
Alors beaucoup de vos critiques dans la presse et un peu partout font état de la joie qui se dégage de vos œuvres. C'est-à-dire que d'ailleurs là où nous sommes dans cet atelier, ça vibre effectivement de couleurs, de dynamisme, de potentiel, comme si effectivement la joie était vraiment un peu votre facteur clé. Je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je pense que ma matière première, c'est vraiment l'émotion, comme dans tout processus créateur, quoi. Et ces émotions me donnent vraiment l'envie de m'exprimer. C'est, comme dit Sylvie Guilhelme, c'est exprimer un trop-plein d'émotions. Et c'est en me promenant dans la nature, comme ça, que me viennent des sensations, que j'emmagasine, et que je laisse, comme dire Rilke, germer. Et puis quand c'est trop fort, voilà, ça sort. Mais c'est toujours dans la joie, oui, parce que heureusement, puisque quand même, le talent, c'est 90% du travail, quoi. Donc si on n'est pas dans la joie, ça devient pénible. Et ce travail, c'est pas un problème si on le fait dans la joie. Et je pense que oui, j'ai toujours dans mes peintures, par les couleurs ou par la composition, par la lumière, j'ai envie d'y mettre un peu mes tripes, quoi. Je m'y mets tout entière, en fait. C'est vrai qu'au début, je réfléchis à une composition un petit peu structurée. Ça, c'est peut-être le restant des études juridiques qui ressort. C'est j'ai besoin de trouver dans la composition la variété dans l'unité, parce que trop d'unité, ça m'ennuie, comme dans la vie. Donc voilà, c'est réfléchi. Mais après, je me lâche, j'essaie de me lâcher pour laisser venir ce qui vient, finalement. Une certaine liberté. Alors, ça peut être la tristesse, ça peut être la joie. Mais en tout cas, c'est fort et ça, je dirais, ça ne m'appartient plus. Quand je finis un ciel, quelque part, je suis un petit peu exténuée, quoi. Il m'a vidée.
Alors, parlons maintenant un peu de vos techniques, parce que c'est très particulier. Là, nous sommes dans votre atelier. À la fois la matière, la couleur, les vibrations de la lumière, vous utilisez donc des techniques très particulières que vous pouvez peut-être un peu exposer, même si nous ne sommes pas, nous, des peintres.
Oui, alors, dans un premier temps, j'ai beaucoup peint au couteau, en effet, ce qui est une technique qui se veut enfin relativement rigoureuse parce que moi je travaille avec beaucoup de couches superposées et pour superposer bien il faut que attendre un certain temps entre les couches, sinon après il y a des problèmes, des craquelures, etc. qu'on voit pas au début mais qui peuvent se manifester ensuite. Donc c'est vrai que ce qui est difficile, c'est qu'il faut à la fois garder cette espèce de liberté gestuelle qui est toute la caractéristique du couteau. Ça permet de se lâcher, de lancer, d'être dans le gestuel. Mais en même temps, il faut respecter une certaine technique. Bon, si vous voulez, c'est vrai qu'on peut mélanger dans le gras, dans la matière, dans le frais, les pigments, les matières, ou bien sur la palette, mais on peut aussi attendre que ça sèche et puis revenir avec une main légère. On peut faire de la broderie aussi avec le couteau, mais ça, c'est pas tellement mon truc. Moi, ce qui m'intéresse dans le couteau, c'est le fait que on puisse être à la fois dans la force et dans la douceur. Voilà. Il ne maquille pas la toile, il la griffe, il la caresse, et je retrouve dans cette technique les mêmes traits de caractère qu'on peut ressentir, les mêmes vibrations qu'on peut ressentir devant un paysage. Et c'est ce que j'essaye de faire. C'est, si vous voulez, quand je vois un paysage ou une figure, il me fait quelque chose et j'essaye de... Ce qui m'intéresse, c'est cette distance et ce qui se passe entre l'objet et moi. Et j'essaye de nouer ce dialogue de telle façon que je le reprenne entre moi et la toile et qui se répercute à nouveau entre la toile et le spectateur. Ma hantise, c'est qu'un tableau ne fasse rien. S'il vous heurte et s'il vous agresse, c'est tant mieux. Ce qu'il faut, c'est que ça fasse quelque chose et que ce triangle fonctionne. Parce que, encore une fois, j'y mets la tête, j'y mets mon cœur par toutes les sensations que je reçois. Finalement, c'est Maurice Denis, vous savez, qui dit « l'œuvre d'art, ce n'est rien d'autre que la transposition d'une sensation ». Donc oui, j'y mets mon cœur, mais j'y mets mes tripes. Et ça, c'est pour ça que c'est un peu extrême et que finalement, si ça heurte, c'est tant mieux, mais au moins ça fait quelque chose.
Alors, il y a aussi une palette de couleurs qui vous est très particulière et qui rejoint ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'elle est forte, cette palette de couleurs, elle interpelle, on reste pas indifférent, et j'aimerais que vous nous en parliez de ces couleurs, parce que vraiment, là aussi, vous y mettez beaucoup de vous-même.
Cette couleur, c'est très très important parce que pour moi, c'est un facteur qui me permet de décoller de la réalité, de faire un pas vers le rêve, et tant mieux s'il est un peu fou ce rêve, hein. Mais ça, c'est à la portée de n'importe qui. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne se rend pas toujours compte de l'impact psychologique qu'ont les couleurs sur nous. Et pour moi, le déclic, ça a été il y a 4 ou 5 ans à La Rochelle. Un professeur de yoga m'a demandé d'animer ses cours en utilisant la couleur comme outil détente. Ah, bien sûr, j'ai dit oui, mais il a fallu que je réfléchisse beaucoup sur ces couleurs pour savoir comment transmettre ce qu'elles me faisaient à moi. Et c'était très intéressant. Si vous voulez, c'est évident que les couleurs ont une véritable influence sur nous. Vous voyez, par exemple, le bleu, ça va apaiser, le rouge nous tonifie, le jaune égaye, le noir peut-être nous rend mélancolique, le violet va nous rendre un peu songeur. Donc ça, c'est formidable. Mais comment l'utiliser? Alors j'ai beaucoup réfléchi à ça pour justement pouvoir les vivre et les utiliser, mais dans la peinture, et aussi bien on peut en faire un outil dans, c'est le feng shui, hein, dans notre décor de tous les jours. On va pas mettre du rouge vermillon dans une chambre, on aurait du mal à dormir. Par contre, si vous allez à un petit interview, bah pourquoi pas s'habiller dans un rouge peut-être un peu doux, un peu safrané, mais peut-être pas en noir, parce qu'on ne va pas donner une image la plus dynamique de nous qui soit. Hein.
C'est très joli ça. Et alors, troisième chose, troisième élément de votre peinture qui frappe ici dans votre atelier, ce sont les thèmes que vous utilisez beaucoup. Et nous avons en face de nous beaucoup de paysages. Et j'aimerais bien savoir si c'est Nieul sur mer qui vous inspire ou si ça a toujours fait partie de vous, parce que je vois bien qu'il y a des villages qui sont très méridionaux aussi dans vos paysages.
Oui, écoutez, c'est très drôle parce que j'ai un thème dans quelques thèmes dans la peinture, notamment ces champs qui tricotent, qui s'imbriquent les uns dans les autres et qui rapetissent comme ça en allant vers l'horizon. Et on a dit autour de moi, finalement, tu es tombé dans ta peinture. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir sous les yeux un paysage qui est un de ceux que je peins depuis longtemps. Et en plus, on m'a mis la mer au bout, donc cerise sur le gâteau. Oui, alors comme je disais, je pars souvent de cette émotion première qui est ce que j'ai sous les yeux. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion en me déplaçant, que ce soit en France, parce qu'on a vraiment des beaux paysages. On a pas mal vécu en Bretagne, donc j'ai fait pas mal de tableaux de Bretagne. J'ai fait des tableaux des villages perchés dans le sud. Et puis, on a beaucoup voyagé, donc j'ai peint l'Égypte, j'ai eu la chance, justement, ça m'a fait plaisir. C'est un tableau qui peignait les rives du Nil, qui a été acheté par un monsieur qui a vécu beaucoup là-bas. Donc, quelque part, il s'est retrouvé. Et ça me fait plaisir parce que je ne veux pas faire une peinture réaliste, hein, sinon les photographes font mieux que moi. Et d'autres artistes, moi, ce qui me plaît, c'est juste cette stimulation du départ. Mais après, je laisse aller. Et tant mieux quand même si ça a une puissance évocatrice suffisante pour qu'on s'y retrouve. Mais c'est juste une idée. Moi, j'ai des personnes qui voient quelquefois, là je lève la tête, je vois une peinture d'un tableau, d'un bouquet qui est très très modernisé, on va dire, stylisé avec une grande lumière qui vient de l'arrière et le décor qui bascule, qui est pris dans une dynamique, un certain mouvement. Et c'est vrai qu'au début, c'était un bouquet pour moi. Et puis, à la fin, vous voyez, je me laisse aller. Et peut-être justement pour introduire de la dynamique, du mouvement dans ce tableau que je trouve trop statique, trop ennuyeux. Donc, voilà, je vais venir mettre une ligne de force, accentuer la lumière, contraster, introduire une pointe de couleur qui va réveiller le tout. Enfin, bref, ça devient, j'allais dire n'importe quoi, peut-être pas tout à fait, mais les fleurs s'évaporent, se mettent à voler, et là, ça devient quelque chose qui s'éloigne, c'est vrai, peut-être un peu de la figuration réelle d'un bouquet. Et quelquefois, ça donne des interprétations. Ben, l'autre jour, j'ai quelqu'un qui a cru reconnaître une ruelle avec un réverbère et quelque chose de très. Une ambiance très très feutrée, à la fois mystérieuse. Je dis tant mieux, tant mieux, tant mieux. Chacun est libre de construire son monde. Voilà. Une fois aussi, pour prendre un autre exemple, un autre de mes thèmes de prédilection, ce sont des ruelles. Et au début, la première fois que j'ai figuré ce thème, j'avais une ruelle. Très éclairé d'un côté, avec des ombres portées sur le sol où les lumières, les couleurs se répondaient. Et j'ai dessiné, j'ai figuré un couple qui se promenait dans cette ruelle. Et puis le lendemain, je découvre la toile et je me dis, mais finalement, voilà, l'histoire est écrite, on n'a plus rien à raconter. Et ça m'a pas plu, j'ai gommé, c'est le privilège du peintre, j'ai gommé ce couple. Et après, je n'ai plus fait que des ruelles vides, un peu, vous savez, à la manière de ces Giotto qui dessinent des grands espaces vides. Parce que pour moi, justement, l'important, c'est très très important que chacun puisse s'y projeter et s'identifier, raconter son histoire.
Voilà, alors ça c'est très intéressant parce que ça permet aux gens aussi de rêver. Alors je rappelle à nos auditeurs qui prennent l'émission en cours de route que nous sommes avec Béatrice Vial-Collet, artiste peintre, dans son atelier pour parler peinture. Et au stade où nous en sommes, il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des personnages aussi dans vos œuvres, soit que vous fassiez des portraits, soit que vous fassiez des nus. Et ces personnages, ça aussi, c'est intéressant de savoir pourquoi, comment vous les avez choisis et comment vous vous êtes lancé aussi dans la peinture de ces nus, qui sont magnifiques d'ailleurs, on dirait presque qu'ils vont partir danser hors de la toile, tellement ils sont dynamiques.
Ça me fait plaisir ce que vous dites, parce que justement le nu, pour moi au départ c'était quelque chose de, enfin c'était un pari impossible. J'ai toujours eu, enfin oui, au début j'avais très très peur de verser. C'est très délicat dans le nu, on verse très facilement dans la frontière est subtile entre ce qui est osé, ce qui est érotique et puis ce qui est vulgaire, ce qui devient ordinaire. Voilà. Donc j'avais très peur de me frotter à ça et je me suis lancée en plus en me disant c'est vraiment pas un sujet qui se vend, on achète, qui va acheter un menu. Bon, et j'ai fait ça vraiment pour le plaisir, ce qui est encore quand même la meilleure des choses. Et le premier nu que j'ai fait, mais j'avais honte, c'était une femme que j'avais tellement peur de dévoiler quoi que ce soit, d'oser, donc elle était de dos, on ne voyait rien du tout, on voyait un dos un peu musclé en effet, les bras levés vers un paysage, la fenêtre ouverte, et voilà, elle respirait, c'était le matin. Et quand j'ai fini ce nu, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, Dieu soit loué, il est parti loin au Japon, je ne l'ai plus vu. Alors là, j'ai compris que ça ne me correspondait pas, hein, puisqu'il faut que la peinture, c'est vrai, elle vous corresponde aussi. Je crois que je m'y mets tout entière, donc on m'y retrouve, c'est sûr, c'est forcé. Et moi, même si je ne suis pas franchement pudique, je ne suis pas non plus à m'exposer à ce point-là. Donc, il me fallait plus de subtilité, plus de délicatesse. Et c'est pourquoi je suis à des nus qui sont comme abandonnés, qui sont souvent en position fœtale, recroquevillés, mais en même temps, on sent cette vie qui palpite en eux, et c'est là toute la contradiction géniale hein, de l'homme, voilà, et cette ambiguïté, oui, c'est de la même façon que dans ma peinture, on me dit souvent, voilà, c'est une peinture ambiguë entre réel et imaginaire, entre force et douceur, et je crois que dans le nu, on le retrouve, parce que pour moi, il n'y a rien de pire que de faire un nu qui soit comme une enveloppe charnelle qui soit vide quoi. Donc pour ça j'ai toujours peint en prenant des modèles plusieurs semaines ou plusieurs mois de suite. Je fais des croquis, des grands croquis, je lance mes lignes qui sont des lignes de force, des lignes vitales, c'est toutes ces forces vitales qui vous animent. Et puis voilà, après ça se bâtit autour. Comme la chair, le squelette, la couleur, la lumière s'accroche autour de ces lignes de force, comme les feuilles, comme la sève vient faire vivre un arbre, vous voyez, à peu près. Et c'est pourquoi c'est, oui, je suis d'accord, elles sont endormies et en même temps on sent qu'elles peuvent jaillir d'un instant à l'autre. Ouais.
Alors, il y a aussi chez vous un très beau portrait, qui est le portrait de votre mari. Est-ce que vous répondez à une commande de portrait quelquefois? Est-ce que ça vous arrive parce que le portrait de votre mari, on comprend que là, c'est quand même très particulier, mais est-ce que ça vous arrive de répondre à des commandes de portrait?
Oui. Alors ça, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Vous voyez, de la même façon, je vous disais, ce qui m'intéresse, c'est de dire pour partager. Ça, c'est pareil. J'adore travailler dans un certain challenge, d'abord un pari. Et par exemple, bon, là, je travaille dans deux directions, soit d'aller faire quelque chose pour quelqu'un, pour quelque part. C'est-à-dire, par exemple, une fois, une personne m'a demandé de faire un tableau pour son salon parisien qui était très solennel, très sévère, très strict, très beau néanmoins, avec des boiseries magnifiques. Et pensais que, si vous voulez, un de mes tableaux qui sont, comme vous disiez, un peu dans la joie, dans la couleur, égayerait, moderniserait ce décor. Alors, on en a parlé, vous voyez, on parle ensemble, on discute, moi je vois un petit peu le tempérament des gens, leur psychologie, leur envie, et puis on échafaude le plan ensemble, le projet ensemble. Et là, on est parti sur un très très grand tableau qui s'est inscrit exactement dans le format d'une boiserie. Et du coup, ça a encadré complètement son canapé et ça a renvoyé des couleurs alors très très chaudes dans des ocres rouges, des ocres jaunes. Ça a changé complètement, complètement la pièce. Alors ça, c'est vraiment... c'est très agréable parce qu'en même temps, j'y mets plein de choses. J'y mets le plaisir de partager avec quelqu'un, ce pari d'utiliser la couleur dans la notion de climat, donner un climat, une atmosphère, un intérieur, et puis mettre sa propre personnalité. Et c'est un projet mené à deux. Le portrait, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que je vais bien évidemment, vous en doutez pas, faire un portrait réaliste. Hein, ça, j'aurais du mal. Ben, encore une fois, tant mieux, vous avez reconnu mon mari, je suis très content. C'est bien sûr, c'est l'idée quand même, mais j'ai une démarche émotionnelle, c'est-à-dire que j'ai envie d'évoquer la personnalité de cette personne et ben, je m'amuse avec les couleurs, les traits de la personne, peut-être grossir un trait qui me paraît caractéristique. Là, mon mari, je l'ai figuré de deux façons. Je me suis amusée parce que justement, on n'est pas un, on n'est pas unique, heureusement. Donc, je l'ai figuré ben, un jour où je devais être très amoureuse en musicien et là, j'ai voulu évoquer sa vie intérieure. Donc il est un peu comme ça, replié sur lui-même, sur sa guitare, et puis il se détache sur un fond qui est comme du rêve, comme si les notes, la musique venaient imprimer des lumières qui volent, des couleurs qui se fondent, quelque chose de très doux et un petit peu mystique peut-être. Et puis un autre jour où ben, je ne devais pas être très contente ce jour-là, peut-être un peu en colère, je l'ai figuré en condottière à la mode de la Renaissance, si vous voulez, il se détache en profil sur un fond noir. J'ai même mis un petit chapeau comme les condottières, voilà, et son profil là est fait de façon beaucoup plus réaliste avec des glacis et on le reconnaît bien cette fois-ci, et il est en glacis donc à la brosse alors que tout le reste est au couteau. Voilà, là ça m'a beaucoup amusée. Et je fais une parenthèse parce que ça c'était très drôle. Ce tableau était accroché dans une maison charentaise qu'on avait avant, assez en hauteur, et puis quand on a vendu la maison, les personnes qui ont visité ont cru qu'il s'agissait d'un ancêtre de mon mari. Voilà, ça c'était à nouveau, ça m'a fait plaisir.
Alors dans ce que vous dites, on sent à quel point ça compte aussi bien avec des clients qu'avec des amis ou des personnes qui vous sont très proches, le rapport à l'autre dans votre peinture. Ça ne se conçoit pas de peindre pour soi, pour vous. Hein. On sent que, et d'ailleurs ça pose la question, est-ce que vous transmettez votre savoir et à qui vous le transmettez, si vous le transmettez?
Oui, tout à fait. Et écoutez, j'ai peint pendant longtemps sans ce souci-là. Parce que j'ai eu beaucoup de chance à commencer un peu comme un conte de fées, puisque quand j'ai pu faire ce que je voulais, c'est-à-dire me faire plaisir, et j'ai fait une école qui s'appelle l'école Martenot, qui a pour but de former des professeurs. Mais j'ai pas fait ça dans ce but-là, j'ai fait ça parce qu'il était déjà tard et que les quelques très bonnes écoles qui existaient étaient fermées pour moi. Et puis quand j'ai fini cette école, j'ai accroché deux clous au Grand Palais à Paris pour le Salon d'automne, et j'ai eu la chance d'être remarquée par la Galerie Guénier qui m'a proposé d'exposer. Ben, là, j'ai pris le cheval comme d'habitude qui passait, bien que j'étais absolument pas prête, je n'avais absolument rien à exposer. Ben, j'ai beaucoup travaillé pendant 6 mois et puis on a fait la première exposition, et là, ben, vraiment grande chance, le soir du vernissage, le tiers des toiles était vendu et après tout a continué comme dans un conte de fées. Donc, j'ai pas pris le temps de penser à autre chose qu'à travailler, puisque là, les salons et les expositions se sont enchaînées. Et quand on prépare une exposition avec 40 toiles, bah, il faut bien être prête et s'amuser à travailler, je dirais. Mais par contre, à un moment donné, c'est vrai qu'au bout d'une quinzaine d'années, ça m'a quand même démangé justement de... Disons que le travail de peintre est quand même quelque chose de solitaire, hein. Même si on a le plaisir d'être à la rencontre de l'autre au cours des expositions ou avec la presse comme aujourd'hui avec vous, j'en suis très heureuse, ou bien avec les visiteurs qui viennent, je dis toujours oui, mon atelier est grand ouvert, je suis très heureuse. Malgré tout, le travail de peintre est vraiment quelque chose de solitaire. J'ai besoin de la solitude, c'est sûr, mais en même temps, j'adore partager. Donc, à un moment donné, j'ai eu envie de transmettre, et j'ai eu une centaine d'élèves sur Paris. Et puis là, en arrivant sur La Rochelle il y a une dizaine d'années, dans un premier temps, à nouveau, je n'ai pas eu ce souci-là. Puis, comme on m'a demandé, bien, j'ai fait autre chose pour me renouveler. Là, j'encadre un peu des artistes qui sont déjà dedans, et soit des peintres, soit des sculpteurs, des personnes qui ont envie de se remettre en question, qui sont en panne d'aspiration, ou qui veulent aller vers une nouvelle technique. Et donc là, je leur propose bien de creuser ces qualités qu'ils ont, ou de pallier aux difficultés, et on élabore un petit plan de travail ensemble.
Alors malheureusement, nous arrivons à la fin de la mission. Très important pour nos auditeurs qui vous écoutent, vous allez exposer prochainement, au mois de mars, le 17 mars, tout près d'ici, à Marcilly.
Oui, en effet. Alors ça, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à exposer à la chapelle de la Lozière. C'est un vaste endroit, très joli. Donc, je vais exposer des grands formats. Ça, ce sera au mois de juin. Et avant ça, j'exposerai à la Richardière. Et c'est un travail que je mène avec un atelier d'écriture à Mauzouvert, qui est à Rochefort. Et les élèves, enfin les participants à cet atelier, vont travailler sur l'image, sur la peinture. Et on va exposer à la fois la peinture d'un côté, et puis les textes auxquels elle leur a donné lieu. Et avec ce même atelier d'écriture à Mauzouvert, on va faire un stage autour des sons et les mots, c'est-à-dire que le processus créateur, il est le même, et on va aiguiser les sens pour, à partir de ce facteur-là, travailler sur l'écriture.
Voilà, alors si vous vous intéressez à Béatrice Vial-Collet, consultez son site qui est très beau, où vous verrez quelques-unes de ses œuvres et vous pourrez aussi prendre contact avec elle. Merci beaucoup Béatrice.
Merci à vous, au revoir.